Bonjour à toutes et tous. Nous remercions le Seigneur pour ce moment de louange que nous avons eu ensemble et qui nous a permis de vraiment l'adorer, le glorifier. Et c'est vrai que tout ce qu'il fait est merveilleux, tout ce qu'il fait est beau et tout ce qu'il fait dans nos vies est beau. Et c'est important de s'en souvenir, de se le rappeler, de se le redire aussi dans nos cœurs. Alors nous allons passer aujourd'hui à un enseignement. Donc vous savez que la tradition veut que certains dimanches de l'année, certains mois de l'année, on n'ait pas une prédication, mais qu'on ait plus un enseignement, une instruction sur un certain sujet. Et donc aujourd'hui, c'est un dimanche d'enseignement où il n'y aura pas une prédication comme d'habitude. Alors on va prier et ensuite on va passer à ce sujet. Seigneur, nous te disons merci pour toutes choses, merci pour tous tes bienfaits, et maintenant que nous voulons ouvrir ta parole, Seigneur, nous voulons reconnaître la limite de notre pensée humaine, la limite de nos capacités humaines pour saisir les choses célestes. C'est pourquoi nous voulons te demander de nous aider à les comprendre. Seigneur, nous voulons vraiment les comprendre par ton esprit, par ta grâce, par ta force, pour vraiment, Seigneur, être fondé en toi et pouvoir agir, parler pour toi, pour ta gloire, selon ta volonté. Nous avons vraiment ce désir, Seigneur, d'être en communion avec toi dans ces temps d'étude de ta parole, qu'elle puisse vraiment nous faire croître, qu'elle puisse abonder en nous, Seigneur, et qu'elle puisse produire du bon fruit dans chacune de nos vies et dans l'Église. Nous nous recommandons à toi et nous te remettons ces instants. Puisses-tu vraiment régner en ces moments. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vraiment bizarre. Je sais bien que les autres fois, j'ai déjà dit que c'était bizarre, mais cette fois-ci, c'est vraiment très bizarre. C'est un sujet bizarre et c'est un sujet aussi pour lequel, certainement, nous pouvons avoir du mal à comprendre son intérêt. Et on pourrait avoir du mal à comprendre l'intérêt d'aborder ce sujet-là dans un culte du dimanche. On pourrait se dire que, vraiment, sincèrement, on pourrait se dire que ça n'a pas beaucoup d'utilité ou que c'est peu important. Et c'est pourquoi nous allons débuter par le fait d'aller voir dans la parole pourquoi c'est important d'en parler. Avant que vous soyez déjà tous fâchés, comme vous aimez bien faire, et que vous vous en alliez avec des têtes mécontentes, nous allons d'abord ouvrir la parole de Dieu, lire la parole de Dieu pour voir où est-ce que ça se situe et pour voir pourquoi c'est important qu'on en parle quand même. Alors on va lire un passage qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est dans Hébreux chapitre 5 et on va lire aussi dans le chapitre 6. Donc on va lire Hébreux 5 et on va dépasser le chapitre 5 pour aller jusqu'au chapitre 6. Et là, dans le chapitre 6, nous allons encore lire certains versets. On commence donc à Hébreux 5, verset 11. Je vous invite à prendre vos Bibles. Hein. Comme ça, vous n'allez pas encore dire que j'invente des versets qui n'existent pas. Hébreux chapitre 5, on va lire à partir du verset 11. Et ensuite, on continuera jusqu'au chapitre 6, verset 3. Alors, il est écrit ceci, Hébreux 5, 11. « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. » Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Alors on va prendre un contexte à ce passage. L'auteur de l'épître aux Hébreux est en train d'aborder le fait que les Hébreux, en tout cas le peuple auquel il est en train de s'adresser, ont besoin d'entrer dans des sujets plus approfondis de la parole de Dieu. Ils en sont encore au lait et ils doivent aller à la nourriture solide, ils doivent aller à des sujets solides, à des sujets beaucoup plus avancés. Et il est en train de leur dire, ben, nous allons aller vers ces sujets-là, ces sujets plus nourrissants dont vous avez besoin pour grandir dans votre foi. Il leur dit que c'est fini maintenant le lait des nourrissons, les rudiments de la parole de Dieu, et qu'il est temps de s'attarder à des sujets plus profonds. Et alors que l'apôtre, parce que c'est un apôtre, mais on ne connaît pas l'auteur précis de ce passage, alors qu'il est en train d'expliquer qu'il va aller vers des sujets plus approfondis, il prend le temps de rappeler les fondements de la foi. Il dit, nous allons aller vers des sujets plus approfondis, mais sans laisser de côté les fondements de la foi, les bases de la foi, les rudiments de la foi. Et il cite dans Hébreux 6, 1 à 2, les bases de la foi, les éléments fondamentaux de la foi, avant d'aller vers des sujets plus sérieux. Et il cite notamment l'abandon des actes qui mènent à la mort, ou on appelle ça aussi le renoncement aux œuvres mortes. Alors le renoncement aux œuvres mortes, ça fait allusion à la conversion, n'est-ce pas ? Quand je viens à Christ, j'abandonne les œuvres mortes, j'abandonne les œuvres, les actes qui mènent à la mort, et je me tourne vers Christ. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est la base de la foi. Quand on vient à Christ, c'est la première étape, c'est je renonce à ma vie passée pour venir à Christ. Ensuite, il cite la foi en Dieu. Je renonce à ma vie passée, je renonce aux œuvres mortes pour croire en Dieu, pour placer en lui ma confiance, dans sa parole, dans sa volonté, dans ce qu'il dit. Ensuite, il parle dans l'enseignement sur les différents baptêmes, sur les baptêmes. Alors, on pense qu'il dit ça parce que il y avait le baptême juif, le baptême de Jean, et puis il y a le baptême chrétien, et il y avait des différents types de baptêmes dans le peuple juif, et donc, il parle des baptêmes, mais on comprend qu'il en vient au sujet du baptême, tout simplement. Donc, la conversion, la foi en Dieu, le baptême, c'est les bases de la foi. L'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Il cite les sujets fondamentaux de la foi, ceux que tout croyant doit connaître, ceux avec lesquels tout enfant de Dieu doit connaître. La résurrection des morts, le jugement éternel, des sujets essentiels. Le croyant sait qu'il va ressusciter avec Christ, qu'il y aura un jugement pour les impies, qu'il y aura un tribunal du Christ pour les croyants. Ce sont des sujets de la base de la foi chrétienne. Des éléments essentiels, fondamentaux, qui vont depuis la conversion, donc la repentance, la foi, jusqu'à la question de la résurrection des morts et à la question du jugement éternel. Ce sont des fondements qui doivent être connus par les chrétiens et donc enseignés dans l'Église locale. Nous allons donc parler de l'imposition des mains. Vous avez vu que ça fait partie de la liste. C'est un sujet qui fait partie de la base de la foi chrétienne. Vous l'avez lu, comme moi, dans le passage. Vous avez tous la même chose dans la Bible. Il se trouve que c'est un sujet qui fait partie des fondamentaux de la foi, autant que le renoncement des œuvres mortes, autant que la foi en Dieu, autant que le jugement éternel, mais qu'on n'en parle jamais. C'est vrai, hein ? On en parle très rarement, et pourtant, nous voyons bien que c'est dans la liste de ce que le chrétien doit connaître, et donc nous allons prendre le temps de le faire. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'étudier l'imposition des mains dans la Bible ? Non ? Non ? Ceux-ci ici sont honnêtes. Ces trois-ci, c'est des vrais. Parce qu'ils disent toujours la vérité. Vous, vous faites semblant, mais ces trois-ci, c'est des vrais. Mais en général, on ne le fait pas du tout. On ne le fait pas du tout. Pourtant, vous allez voir que la Bible en parle énormément. La Bible en parle énormément. Alors, pourquoi nous allons en parler ? Parce qu'il y a un grand danger dans lequel nos églises sont devenues championnes. Le danger, il est lequel ? C'est de fonder nos enseignements dans l'Église ou notre foi chrétienne sur ce que nous pensons important humainement parlant. En d'autres termes, nous humains, avec nos esprits, nos cerveaux, nos têtes, nous avons naturellement des sujets dont nous allons nous dire « mais ça c'est important ». Et puis d'autres pour lesquels on va considérer que c'est pas important parce qu'à nos yeux, c'est un détail, c'est un truc comme ça, c'est un truc au hasard. Et donc par exemple, si on vous parle de la croix de Jésus, vous allez tous dire « bah oui, c'est important ». Si on vous parle de la prière, ben oui, c'est important. Mais dans une église évangélique, si vous dites l'imposition des mains, tout à coup, tout le monde va se dire, c'est un détail, quoi. Oui, on en parle, hein, c'est pas ça. Mais on n'y donne pas la même importance qu'à tout le reste. C'est un danger, pourquoi ? Parce que si nous voulons être des chrétiens de la parole, nous ne devons pas choisir ce dont nous parlons selon si ça nous parle ou ça ne nous parle pas, mais si la parole nous en parle. C'est la parole qui doit me dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. C'est pas moi qui dois dire, moi je trouve que ça sert à rien. Je dois voir dans la parole qu'est-ce qui est important, de quoi est-ce qu'on parle, et en fonction de ça, je dois adapter ma marche avec Dieu. Et donc la parole considère que c'est un sujet important. Même si nous, nous pensons pas, la Bible le voit tout à fait autrement. Nous devons faire attention de bien nous fonder sur la parole. Pas juste au sens où ça nous arrange, mais vraiment sur ce qui est écrit. Pourquoi aussi ? Parfois, je m'inclus, hein, c'est pas juste vous, nous nous croyons plus intelligents que Dieu. C'est-à-dire que nous allons nous dire, Dieu, ce qui compte, c'est ton cœur, par exemple. La position des mains, c'est quoi ? C'est pas ça qui est important. Église évangélique, vous allez avoir ça à chaque fois. Ce qui compte, c'est ton cœur. Ça, oui, c'est un symbole. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible me dit que c'est un sujet important. Quel est le danger qu'il y a lorsque nous mettons de côté volontairement des sujets dont la Bible parle et que la Bible trouve importantes ? C'est que nous nous privons de certaines choses que Dieu veut faire, tout simplement. Dieu institue des choses dans sa parole. Il donne des principes, il donne des réalités importantes. Eh bien, lorsque nous nous les mettons de côté, nous nous privons aussi de ce que Dieu veut réaliser en nous et au milieu de nous. Et donc, l'imposition des mains, c'est un sujet important dont nous allons parler. On ne va pas en parler pendant 8 dimanches, hein, vous vous en doutez, mais c'est quand même important que tous on soit au clair sur ce sujet-là. Alors, je vais commencer par là, juste pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Hein, parce qu'on ne sait jamais que vous ayez été voir un film au cinéma hier soir, comme vous aimez bien faire, et que vous ayez vu quelque chose et que vous ne savez pas, vous confondiez. Je ne voudrais pas, voyez-vous, que vous soyez perdus. Du coup, je vais juste montrer de quoi est-ce qu'on parle, en vous disant que ce qu'on voit là, ce n'est pas forcément ce dont on parle, mais au moins, on sera tous d'accord qu'on parle de la même chose. L'imposition des mains, c'est un geste. C'est un geste physique. C'est un geste qu'on pose avec ses mains. Alors voici des exemples de ce qu'on appelle l'imposition des mains. C'est un geste, comme celui-là par exemple, dans lequel on pose les mains sur quelqu'un. Alors, un autre exemple, ça c'est l'image n'est pas très belle, mais vous voyez un peu l'idée quand même. Un exemple dans l'Église catholique d'un geste d'imposition des mains. C'est quand même le plus facile pour voir des images d'imposition des mains, c'est les catholiques, parce que eux, ils font des images et tout ça. Un autre exemple. Et puis, un exemple de ce que ça donne dans les églises protestantes en général. Même si ça, c'est pas une vraie imposition des mains, parce que imposition des mains, ça implique de poser la main sur la tête de la personne. Mais vous voyez à quoi ça ressemble. Première rencontre de ce geste dans la Bible. La première fois qu'on rencontre ce geste dans la Bible, c'est dans Genèse 48, 13 à 20. On va pas le lire, mais on va juste expliquer. Dans Genèse 48, on nous parle d'Israël. Alors il est écrit, « Puis Joseph les prit tous les deux, ce sont ses petits-enfants, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. » Israël étendit sa main droite et la plaça sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il imposa sa main gauche sur la tête de Manassé, et ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché nos pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. » Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Alors en gros, ce sont les petits-enfants donc qui arrivent. Et voilà que Israël, donc Jacob, va en fait les bénir. Et juste un détail que vous avez compris dans la lecture, il y a deux enfants, il y en a un qui est l'aîné et l'autre qui est le cadet, et en fait, il va croiser ses mains, en fait. Plutôt que de mettre ses mains comme ça, il croise ses mains, ce qui a pour conséquence qu'il va poser sa main droite sur le plus jeune, alors qu'il devrait poser sa main droite sur l'aîné, ce qui fait que son fils lui dit « Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Mais il dit « Si, je dois le faire comme ça, parce que c'est le plus jeune qui aura domination sur l'autre. » Mais donc ça, c'est la première fois qu'on trouve ce geste dans un geste de bénédiction. Il bénit ses enfants, et il bénit ses petits-enfants, et il bénit ses enfants en leur imposant les mains. Un geste au travers duquel il va transmettre la bénédiction de Dieu à ses petits-enfants. On voit une autre fois, au tout début de la Bible, l'imposition des mains apparaître. On va prendre quelques exemples. Dans Lévitique 1, 1 à 5, il est écrit « L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel. » Une autre fois où on voit le geste d'imposition des mains intervenir, c'est lorsque les enfants d'Israël devaient apporter des sacrifices. Ils apportaient des sacrifices et pour offrir un sacrifice, ils devaient poser leurs mains sur le sacrifice qu'ils amenaient pour le transfert de la culpabilité du péché. C'est-à-dire que le pécheur qui voulait être pardonné de son péché posait sa main sur l'animal pour que sa faute soit sur l'animal. Il transmettait sa faute sur l'animal de sorte que lorsqu'il offrait l'animal, eh bien, l'animal était son substitut et qu'il était ainsi pardonné de sa faute. C'est le même mécanisme qu'avec Jésus. Nos fautes ont été déposées sur lui et lorsqu'il est mort, nous avons été pardonnés. Mais donc, le transfert du péché depuis le pécheur sur l'animal était fait par un geste. Il y avait un geste physique duquel s'accompagnait une opération spirituelle dans laquelle le péché du pécheur passait sur l'animal. Et il était ainsi pardonné. On voit à d'autres moments que c'est aussi valable pour les péchés collectifs. Lorsque tout le peuple avait péché, lorsque tous les enfants d'Israël avaient commis un péché, les anciens d'Israël représentaient le peuple et ils allaient poser leurs mains sur un taureau que l'on tuait et par le meurtre de le sacrifice de ce taureau, le peuple d'Israël était pardonné. On voit aussi que pour l'installation des Lévites, il était prévu, donc les Lévites, ceux qui étaient en service au temple, il était prévu, voyez, que les Lévites s'approchent et que les enfants d'Israël posent leurs mains sur les Lévites en signe de représentation, les enfants d'Israël, souvent les responsables du peuple, posaient leurs mains sur les Lévites, et les Lévites étaient ainsi institués dans leur charge pour représenter le peuple devant Dieu. Les enfants d'Israël leur transmettaient la charge par l'imposition des mains, et ainsi ils devenaient les représentants devant Dieu. Vous lirez également Lévitique 24-14 pour ceux qui veulent. Vous lirez Lévitique 16-20-21. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais ce sont d'autres passages qui nous parlent dans le début de la Bible de l'imposition des mains. Vous lirez également Exode 29-1-5, ceux que ça intéresse. Mais toujours aussi versets 6-11, c'est aussi important. Nous voyons un autre moment où l'imposition des mains intervient. C'est un passage qui est très éloquent, comme vous allez le remarquer. Il s'agit du moment où Moïse va terminer sa charge et où c'est Josué qui va le remplacer. Moïse est en train de terminer et voilà que Josué va prendre la place. Et Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Qui parle ? C'est une tradition humaine, c'est Dieu qui dit, prends-le et pose ta main sur lui. Tu poseras ta main sur lui. Verset 23, donc c'est Moïse qui obéit, il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Donc il obéit à l'ordre de Dieu et il pose ses mains sur Josué pour lui transmettre la charge. Alors jusque-là, c'est déjà très éloquent. On voit clairement que c'est un geste qui est demandé par Dieu, qui est ordonné par Dieu. Mais bien plus, quand on lit dans Deutéronome, on trouve ce verset. Deutéronome 34, verset 9. « Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. » Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il était rempli de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. C'est clair ou c'est pas clair? Vous voyez que ce n'est pas un geste anodin. Alors on montrera que le geste tout seul n'a pas de valeur. Si vous vous amusez à poser vos mains sur tous vos voisins ou sur tous vos collègues, comme ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur. Mais lorsque c'est fait devant Dieu et par Dieu, voyez les faits. Car Moïse avait posé sa main sur lui. Donc c'est un geste qui s'accompagne d'une vraie opération spirituelle. Ce n'est pas un geste anodin purement physique, c'est un geste qui implique aussi un événement qui se passe au fond des personnes qui reçoivent l'imposition des mains. Il avait posé ses mains sur lui. Alors, on trouve d'autres passages. Là, vous allez bien aimer. On vient dans les évangiles, comme vous aimez bien. Et là, ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus qu'on nous parle de ce geste. Marc 6, verset 5, on parle de Jésus. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. Ces passages-là, vous les connaissez. Luc 4, verset 10, « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. » Donc on a vu que l'imposition des mains intervient pour la bénédiction des enfants. On a vu qu'elle intervient pour la transmission des péchés. On a vu qu'elle intervient pour installer des serviteurs de Dieu, comme Josué. Et on voit ici que l'imposition des mains intervient aussi pour la guérison des malades. Et on voit que Jésus le faisait tout le temps. Jésus, votre Seigneur, le faisait. Voyez comme nous sommes graves, nous autres, les chrétiens. Un geste que Jésus faisait, nous faisons comme si c'était un détail. Alors que la Bible n'arrête pas de nous dire que Jésus le faisait. Luc 13, versets 11 à 13. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivré de ton infirmité. » Et il lui apposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alors vous voyez ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'en fait, il y a d'abord une proclamation de Jésus. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » En d'autres termes, Jésus lui annonce qu'elle va être guérie. Il y a une volonté du Père dans les cieux qu'elle soit guérie. Il lui annonce par la bouche qu'elle va être guérie. Et ensuite, il pose le geste qui réalise concrètement ce que Dieu a prévu, c'est-à-dire la transmission de la guérison. Donc l'imposition des mains n'a pas de valeur en elle-même, elle a une valeur parce qu'elle vient en réponse à ce que Dieu veut réaliser sur quelqu'un. Dieu veut guérir la personne, et donc, en posant sa main, il active ce que Dieu a prévu. Évidemment que ce n'est pas un geste qu'on pose parce qu'on a envie. Ce n'est pas un geste par lequel on impose à Dieu de faire ce que nous voulons. Hein? Sinon, comme dirait mon bon Gino, vous savez ce qu'il dit, Gino ? Il dit, mais va à Marie Curie alors, hein, et impose les mains à tout le monde. Non, mais il a raison. Ça voudrait dire que si c'était juste une volonté humaine, ben oui, tu vas à Marie Curie et puis tu vides l'hôpital en une demi-heure. Hein? Donc non, il y a un choix de Dieu, il y a une décision de Dieu, et l'imposition des mains réalise ce que Dieu a décidé souverainement. On n'impose pas à Dieu, mais on suit ce que Dieu a prévu. Autre passage. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et vous savez qu'en finalité, il va être guéri. Les apôtres également faisaient cela. Alors, c'est important de le dire, voyez-vous, parce que un petit malin, il n'y en a pas ici. Mais les petits malins, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Ils vont vous dire, ben oui, ben moi je ne suis pas Jésus. Jésus le faisait, ben moi, voilà, c'est le Seigneur, lui il le faisait. Et on voit que les apôtres vont réaliser le même geste. Alors c'est important, pourquoi ? Parce qu'en réalité, tout ce que les apôtres font, c'est une image de ce que l'Église est amenée à faire tout le temps. Ce que les apôtres perpétuent après Jésus, ben, ça nous instruit sur ce qui est, en réalité, la normalité de la vie de l'Église. Le père de Publius était alors au lit, malade, de la fièvre, de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Vous voyez que l'apôtre aussi faisait exactement la même chose. Alors, Marc 16 est un passage qui parle aussi de cela. Vous savez que c'est un passage pour lequel il y a une controverse théologique, Marc 16, 15 à 19, parce que c'est un passage qui ne se trouve pas dans tous les manuscrits. Il y a des manuscrits dans lesquels on ne trouve pas cette fin de l'évangile de Marc. Vous avez déjà entendu parler de ça, hein, cette question-là. Alors, il y a des gens, parce que ça les arrange, qui disent que ce n'est pas dans l'original, et puis il y en a d'autres qui disent que c'était dedans. Alors, vous lirez Marc chapitre 16, la fin de l'évangile de Marc, et vous lirez pourquoi est-ce que beaucoup pensent que ceci vient vraiment de l'original. C'est que si ce passage-là n'existe pas, Marc 16 termine sur une note très bizarre. En tout cas bizarre, mais en tout cas très triste. Il y a plusieurs éléments qui jouent. Premièrement, il y a une cohérence dans le fait que Marc 16 termine vraiment par ce passage-là. Mais aussi, ce passage-là contient tout ce que nous voyons dans la Bible. Il n'y a rien dans le passage qui sort de ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Ce qui fait que je fais partie des gens qui accueillent pleinement ce passage, sans restriction. Marc 16, par exemple, dit ceci, vous connaissez, c'est les miracles qui accompagneront ceux qui croient. Hein? Ils parleront des nouvelles langues, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et puis il dit... Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais en réalité, c'est ce qu'on vient de voir dans Actes. Hein. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de dissonance. C'est une réalité qu'il y a dans les Actes des apôtres. C'est que les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus, ils imposaient les mains aux malades et des malades étaient guéris. Nous le voyons aussi à d'autres moments, ce geste de l'imposition des mains. Dans Actes 8, 17, il est dit par exemple, « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Lorsque Paul lui imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors ça aussi, ce sont des passages qui sont des passages tout à fait accueillis, acceptés, mais qui créent débat, surtout avec nos frères évangéliques que vous êtes, n'est-ce pas ? Mais c'est bien d'être évangélique. Pourquoi ? Parce que si on le lit comme ça, le passage pourrait laisser penser que l'entrée du Saint-Esprit dans une personne vient de l'imposition des mains. Alors, les évangéliques ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils disent, mais non, le Saint-Esprit, on le reçoit par la nouvelle naissance. Lorsque je crois, c'est comme ça que je reçois le Saint-Esprit. Je ne le reçois pas parce qu'on pose les mains sur moi ou pas. Eh bien, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Le Saint-Esprit, on le reçoit parce qu'on croit. Et c'est par ce Saint-Esprit qu'on devient enfant de Dieu. Imaginez-vous, ça voudrait dire que tout le monde, partout dans le monde, devrait un jour avoir une imposition des mains pour devenir enfant de Dieu. Ce serait terrible. Hein, Donc, ça n'est pas du tout l'esprit du Nouveau Testament. Mais l'esprit du Nouveau Testament, par contre, c'est de montrer que après la conversion, après le baptême, il y a dans la vie du croyant un besoin d'être rempli du Saint-Esprit, un besoin de recevoir un équipement du Saint-Esprit, un besoin, si vous voulez, que le Saint-Esprit puisse pleinement agir dans la vie du croyant. Alors oui, c'est bien de dire qu'on le reçoit à la conversion, mais le Saint-Esprit ne doit pas juste être quelque chose qui dort en nous. Le Saint-Esprit doit aussi nous conduire, nous remplir, nous qualifier. Et donc, il y a un geste par lequel on va invoquer la puissance de l'Esprit sur la vie de quelqu'un. Et regardez, chapitre 19, verset 6, « Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Donc le Saint-Esprit n'est pas venu sur eux pour devenir enfants de Dieu, mais il est venu sur eux pour les qualifier dans la prophétie, dans le parler en langue, dans une expression spirituelle. Alors, nous voyons ça dans la Bible et vous savez bien que ça vient après le baptême. Alors là-dessus, nos églises ont bien compris la chose. Vous savez que quand on baptise des gens, on prie toujours pour eux après. Donc ça vient de la Bible. C'est qu'après le baptême des gens, on invoque la grâce du Saint-Esprit sur eux. On demande au Saint-Esprit de les remplir, de les qualifier. Et on le demande comment ? Par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains. Là encore, nous trouvons un passage dans Actes 19. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc vous voyez, encore une fois, ils sont baptisés et ensuite on leur impose les mains pour que le Saint-Esprit puisse pleinement agir en eux, les conduire et les remplir. Un passage que vous pourrez lire, on ne va pas beaucoup le commenter, Actes 9, 17. « Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül. Et lui dit, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Donc il pose les mains pour qu'il soit guéri et aussi pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Nous en avons besoin, n'est-ce pas, d'être rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Dans ce que nous faisons, dans nos dons, dans nos pensées, dans nos décisions, nous avons besoin que le Saint-Esprit soit en nous, bien sûr, mais qu'il soit aussi une force, une direction dans nos vies. Alors, l'imposition des mains intervient également dans un autre contexte. C'est le contexte du service de Dieu. Alors, vous l'avez déjà vu dans l'imposition des mains à Josué. Josué va servir Dieu au milieu du peuple et Moïse lui impose les mains. Alors, on pourrait douter, parce qu'il pourrait toujours avoir un petit malin, pas ici, qui va dire « Oui, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Avant, c'était comme ça. Mais non, puisqu'on voit exactement la même chose dans la vie de Timothée par rapport à l'apôtre Paul. 1 Timothée 4, verset 14, c'est Paul qui parle à Timothée, vous le savez, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. » Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Le don qui est en toi. Alors là, le passage, on pourrait encore discuter avec un petit malin. Mais le suivant ne sait plus discuter. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est clair ou c'est pas clair? Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Vous voyez que c'est pas juste un symbole comme ça. C'est réellement un geste qui, une fois qu'il est fait dans la prière, dirigé par le Saint-Esprit, c'est un geste qui a des effets. Timothée avait un don spirituel qu'il avait reçu lorsqu'on avait posé les mains sur lui. Alors ce qui est particulier, c'est que si vous aviez vu Timothée à ce moment-là, ben, extérieurement, il ne se passe rien. Il est là, on lui pose les mains dessus, il est toujours le même avant, après. S'il avait une écharpe rouge, il a toujours une écharpe rouge. S'il avait des lunettes, il a toujours des lunettes. Mais spirituellement, en lui, il s'est passé quelque chose, parce que par le Saint-Esprit, on a posé les mains sur lui. Par l'imposition des mains dans la prière, Dieu confère des grâces. On a vu le don de sagesse chez Josué, on voit le don spirituel chez Timothée. Dieu confère des grâces, il transmet des dons spirituels, il qualifie pour le service, il équipe pour une action relevant entièrement de sa puissance. Personne ne peut servir Dieu par ses forces. Nous avons besoin de la force de Dieu, de qualification de Dieu, et par l'imposition des mains, il se fait des transferts de grâces. Il s'est fait un transfert de grâce de Moïse vers Josué, il s'est fait un transfert de grâce de Paul vers Timothée, par le geste de l'imposition des mains. Alors ça, c'est moi quand j'étais jeune. Comme pour dire que tout le monde a bien reçu l'imposition des mains, c'est impensable, n'est-ce pas, d'être pasteur sans jamais avoir reçu l'imposition des mains. C'est la parole qui nous le montre. On le voit à d'autres endroits, dans Acte 13, versets 1 à 3, vous voyez, encore une fois, c'est un texte où on en a beaucoup parlé. Quand on a parlé du jeûne, il y a quelques mois, on en a parlé aussi. Acte 13 dit ceci, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, Dieu désigne des serviteurs. Ici, c'est Barnabas et Saul. Et ils reçoivent l'imposition des mains après laquelle ils vont être amenés à servir Dieu. Donc l'imposition des mains transfère des grâces, mais aussi elle établit. Vous voyez qu'ils ne sont pas partis comme ça, comme des guélurons, comme nous faisons dans nos églises. Ah, vous allez aller évangéliser ou vous allez... Ben, vas-y. Ah, toi, tu vas faire quoi? Tu vas être ancien? Ben, vas-y, allez. Ils ont reçu un geste précis. Pourquoi? Parce que c'est trop grand pour nous, tout ça. Évangéliser, prêcher, c'est trop grand pour nous. Nous sommes incapables de faire ça avec nos capacités. Nous avons besoin d'une intervention de Dieu, d'une grâce de Dieu. Et par l'imposition des mains, nous demandons cette grâce, cette qualification particulière de Dieu. Nous le voyons aussi pour l'ordination des diacres. Vous voyez, acte 6, vous lirez en détail à la maison, vous voyez qu'il y a ce passage où on demande de choisir dans le peuple de Dieu des gens qui sont pleins d'Esprit Saint, remplis du Saint-Esprit, donc la preuve c'est qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit avant, remplis de sagesse, et qu'on pourra charger de l'office diaconal. Et voilà que la proposition plut à tout le monde. Il y a des hommes qui ont été choisis, des gens qui ont été choisis. Ils sont choisis et ils sont amenés aux apôtres. Et le texte continue en disant, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc, ils, pour être installés dans leur office, ils reçoivent ce geste par lequel, d'une part, on demande au Saint-Esprit de les qualifier, mais aussi par lesquels eux-mêmes reçoivent la force, l'autorité pour servir Dieu. Alors, vous voyez que c'est intéressant, hein, parce que ça veut dire que même un office diaconal qui peut être purement matériel, qui peut être purement matériel, demande ce geste-là. Hein, c'est pas juste pour ceux qui vont évangéliser au bout du monde, qui vont même pour des tâches qui peuvent parfois être matérielles, eh bien, on a besoin de ce geste qui officialise un service, mais qui aussi appelle des grâces de Dieu sur la vie des hommes et des femmes. Vous le savez aussi, on va terminer par là, parce que vous êtes fatigués, je vois bien. Vous savez aussi que Jésus a imposé les mains aux enfants. Donc, puis, verset 16, ici en bas, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Il les bénit en leur imposant les mains. Hein? Alors, vous voyez que, encore une fois, on pourrait jouer en disant, ben oui, on peut bénir les enfants, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament, quand Israël avait béni Éphraïm et Manassé, c'était à l'époque. À l'époque. Mais vous voyez que Jésus lui-même l'a fait. Et il dit, il les bénit. Donc, ça veut dire que c'est pas juste un geste qu'on fait pour le symbole, ça veut dire que c'est un geste qui est suivi d'un effet, qui est la bénédiction de Dieu sur une personne. La grâce de Dieu sur une personne, et là en particulier sur un enfant. Bon, on va finir, hein. Oui, on va finir. Non, on finira une autre fois. On finit une autre fois ? Oui. Hein. On va finir une autre fois, parce qu'aujourd'hui c'est Valentin qui préside, et lui il est très carré. Hein. Donc lui, si jamais je dépasse le temps, il va me faire une tête au carré. Donc on finira une autre fois, hein, Valentin, ça va ? Oui, ben voilà. Vous voyez, il prend autorité, hein, là, j'ai plus rien à dire. Bon, voilà pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. N'hésitez pas à lire les Écritures. C'est ça qui est important. C'est pas que ça soit conforme à ce que l'un pense, à ce que l'autre pense, mais à ce que les Écritures disent. Amen.